pas en fait. Non, c'est bon. Non, je touchais pas la dernière fois.
Oui, oui, président.
Ça, c'est ma carte. Bonjour à tous.
Bonjour.
Je vous propose que je tiens un peu, pardon, que je commence le message. Seigneur, je te prie effectivement de venir m'aider, de venir aussi nous aider, chacun de nous, Seigneur, à comprendre et à méditer ta parole. Seigneur, ça reste un mystère, pourquoi tu utilises des objets faibles, Seigneur, entre tes mains, pour faire ce travail si important. Et quoi qu'il en soit, je te prie, Seigneur, de me permettre de faire, Seigneur, ton œuvre, en ayant conscience que c'est toi qui permet que quelque chose finisse par porter fruit. Dans mon plaisir. Alors, je propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. L'évangile de Jean, chapitre 9, les versets 1 à 5. Et donc, on va parler de personnes qui sont aveugles et d'autres qui ont la vue éclairée. Verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit révélé en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Première partie, une double maladie. Donc, je relis les versets 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle ? Alors nous avons ici un malade, une personne avec un handicap, un homme né aveugle de naissance. Donc. Et la question que se pose les disciples, la question que parfois même nous, on pourrait se poser en regardant certaines situations, est-ce que la maladie était méritée pour le malade ? Est-ce que la personne qui a cette maladie, est-ce que le mérite ? Ça ressemble à une question un peu cynique, hein, mais je pense que c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Je vous mets au défi d'ouvrir un journal, de regarder les faits divers, et vous allez vite vous rendre compte que, instinctivement, vous vous posez cette question, où est Dieu ? Où est la justice ? Où est l'injustice ? Est-ce que Dieu punit tel pays parce qu'il se passe telle chose là-bas ? Est-ce que tel malheur arrive à tel groupe de personnes parce que, bon, ils ont un peu mérité, ou ça fait des années qu'ils font ça ? Est-ce que tel malheur est mérité par telle célébrité parce qu'elle a mené une vie de débauche ou autre chose ? On a tous, malheureusement, ce réflexe. On veut tous se mettre à la place de Dieu et prendre un peu la place du juge. On est forcément dur et intransigeant dans cette vision de Dieu. Et bizarrement, quand on parle de Dieu pour nous, bah Dieu, en revanche, il est tout compatissant, gentil avec nous. Donc c'est toujours deux poids, deux mesures quand on a chaud. Quand on essaie d'interpréter les actualités, quand on essaie de voir comment Dieu agit avec nous. Peut-être aussi que les disciples avaient quelques bases bibliques, hein, pour dire ça, parce que ce n'était pas complètement la méchanceté. Si on regarde dans Exode, au chapitre 20, Exode chapitre 20, le verset 5, donc un verset qui parle de Dieu qui punit le peuple s'il part dans l'idolâtrie. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Alors l'idée ici est que les enfants ont tendance à répéter les fautes de leurs parents, aussi bien, enfin, répéter de manière générale, hein, ça peut être répéter les bonnes choses comme les mauvaises choses, hein, c'est leur propre des enfants par rapport aux parents. Et du coup, dans ce passage, c'est pas tant le fait de dire que Dieu punit les enfants parce que les pères ont fait des fautes, comme dire par exemple, moi je fais une faute et demain j'ai un fils, et dans mon fils il va partir avec un handicap, il va partir avec telle ou telle chose dans la vie qui vont l'empêcher. Et il ne s'agit pas de dire, bah, c'est parce que j'ai péché à tel moment et du coup Dieu reporte la faute sur mon enfant. C'est pas comme ça qu'il faudrait interpréter le passage. C'est plus dans l'idée de se dire que bah, si les fils ont les mêmes erreurs que leur père, que leurs parents, bah, Dieu va continuer à les punir. Il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se limiter malheureusement dans sa punition. Et on a besoin, je pense, de comprendre comme ça, parce que si on regarde un autre passage, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, on sera un peu tenté de se dire que c'est carrément un passage qui dit autre chose. Celui qui pêche, donc Ézéchiel 18, verset 20, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père. Et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Donc déjà, on a un éclaircissement, et on se rend compte en tout cas que c'est assez dur de pouvoir prendre une situation, une personne qui est dans un cas particulier, et se dire « Ah bah c'est facile, parce que c'est simple, après ça, bah Dieu est puni, c'est normal. » C'est beaucoup plus dur que ça, et c'est même, dans la plupart des cas, impossible. Parce qu'à moins d'être Dieu lui-même, on ne peut pas savoir quelles sont les circonstances. Dans l'absolu, on ne sait pas quelles sont les décisions que prend Dieu dans l'absolu, dans le secret. Donc c'est assez difficile. Et du coup, la question qui pose, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle, n'est pas vraiment la bonne question. La question qu'ils auraient dû se poser, du coup, ils auraient pu se répondre rapidement, c'est la bonne question aurait été de se dire, est-ce que cet homme a plus péché que quelqu'un d'autre pour mériter son handicap? Et là, on se rend compte, évidemment, il suffit de parcourir la parole. Si on fait l'échelle de qui c'est qui a fait le plus de péché, qui c'est qui a fait le moins de péché, et qui c'est qui, au final, sera puni, et qui c'est qui n'est pas puni, on se rend compte qu'il n'y a pas de valeur. Certaines personnes ont fait beaucoup de péché, été beaucoup pardonné. Certaines personnes, a priori, ont eu une mention de péché dans la Bible et hop, ils sont punis. Donc, il n'y a pas d'échelle établie. Et donc, ici, on aurait pu dire, vraiment, effectivement, si moi j'ai péché, si moi j'ai fait des fautes, je ne vois pas pourquoi lui, dès la naissance, il aurait mérité d'être aveugle. Et donc, on peut arriver à ce premier constat, parce que le titre de cette première partie, c'est une double maladie. Beaucoup d'hommes ont péché dans la Bible et ont été pardonnés. Beaucoup d'hommes ont péché dans la Bible et ont payé directement les conséquences. Cet homme est aveugle et on ne peut pas tirer le fait qu'il méritait de par son péché. Mais on sait, de source sûre, que tous les hommes ont péché. Donc de prime abord, on peut d'ores et déjà dire qu'il est malade dans son corps et on peut supposer qu'il est malade comme tout homme qui a péché en lui, parce qu'on est tous de base inclinés au péché. Et donc de base, on pourrait au moins dire que, bah, effectivement, il a une double maladie, a priori, celle qui est visible, celle du fait qu'il est aveugle, qu'il ne peut pas voir, et celle du péché qui est en chacun. Donc ça, c'est le seul constat, a priori, sans trop se mouiller, qu'on pourrait faire. On peut lire aussi donc, dans Marc, chapitre 2, Marc chapitre 2, verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. On a tous, alors, a priori, certains sont en bonne santé, effectivement, et le piège est effectivement de croire que de parce qu'on est en bonne santé ou parce que même on aurait des valeurs morales, on serait une bonne personne a priori, on n'aurait pas effectivement cette deuxième maladie, celle que seul Dieu peut voir, et celle qui en chacun nous, celle du péché. Et effectivement, Jésus nous rappelle qu'il est venu pour ceux qui sont malades, pas comme s'il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas malades au point de vue du péché. Hein. Ceux qui ne sont pas malades au point de vue du péché, c'est juste ceux qui ne voient pas, qui sont aveugles finalement de leur propre péché. Donc cet homme est doublement malade, a priori, aveugle de son corps, et a priori aveugle de son péché. Et donc on va voir ce que Jésus déjà va répondre à l'analyse des disciples. Donc verset 3, donc, deuxième partie du message, une guérison qui témoigne aux autres malades. Donc Jésus répondit, ce n'est pas que lui, ses parents, aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Encore une fois, on peut demander si Jésus ne répond pas à côté, qui a péché, hein, c'est la question, c'est lui ou ses parents? Est-ce que ça veut dire, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées? Premièrement, Dieu agit dans notre faiblesse, quelle que soit la force de chacun, quelle que soit la condition de chacun, on a tous, qu'on veuille l'admettre ou non, on a tous une faiblesse, on a tous un talon d'Achille, quelque chose qui fait qu'on est incomplet et incapable déjà de fonctionner normalement et encore moins de satisfaire à Dieu. Et Dieu, justement, profite de ces faiblesses qu'il met en nous pour nous aider, pour manifester sa gloire. Encore faut-il reconnaître la faiblesse. Alors on peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Donc Paul, qui parle de ses propres faiblesses, quand bien même il serait un grand homme de la foi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc Jésus, qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu, va agir dans cet aveugle, hein, va le permettre de voir clairement. Donc ça c'est la fin de, juste après du passage cité. Hein. Après avoir dit cela, il, Jésus, cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, qui signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. De toute évidence, non seulement Jésus le soigne du point de vue physique, mais de la manière dont il parle à cet homme qui est aveugle et qui maintenant voit, parle après avec les pharisiens, cet homme il est aussi plus aveugle au niveau de son cœur. Dieu a priori travaille déjà dans son cœur. Et dans le sens où il est déjà en train de défendre Jésus face aux pharisiens dans le passage qui suit, donc c'est dans Jean 9, c'est verset 30 à 34. Donc cet homme, l'homme qui était aveugle, qui ne l'est plus maintenant, qui témoigne aux pharisiens qui ont évidemment une question, cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, donc d'où vient Jésus, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs mais qu'en revanche, si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle muet. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, évidemment, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Dieu agit dans la faiblesse de notre corps. Dieu agit et transforme notre faiblesse spirituelle. Mais surtout, Dieu utilise cette guérison, cette transformation, pour témoigner à son propre Fils, en fait. Ces œuvres qui révèlent, ça permet de montrer aux gens, en fait, d'où vient Jésus. Il utilise littéralement cette guérison pour montrer aux pharisiens, montrer à tout le peuple que Jésus est réellement qui il est. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'évangile de Jean, qu'on a déjà pu voir déjà la semaine dernière, hein, ces allusions, en fait, que Jésus est réellement Dieu dans Jean 8. Et si on prend notre exemple, hein, dans Jean 11, par exemple, Jean 11, verset 4, donc au sujet de Lazare qui ressuscite, hein, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu se révèle. » Je répète, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils soit révélée. » Littéralement, on utilise ces guérisons pour faire de l'évangélisation, pour dire qui il est, pour dire qui est, que Jésus vient réellement de Dieu. Ce n'est pas juste guérir pour guérir, ce n'est pas juste guérir pour sauver une personne spirituellement, mais c'est aussi pour annoncer qui il est réellement du point de vue de Dieu. Donc Jésus fait la vérité. Jésus fait la volonté du Père. C'est sa nourriture, il l'a déjà dit. Qu'il soit en train de guérir un aveugle, qu'il soit en train de discuter avec des pharisiens, d'argumenter avec eux. Son but, c'est d'annoncer le royaume, c'est d'annoncer la bonne parole, c'est que les gens comprennent le problème central du péché. De reprendre Jean 4, verset 34. Hein. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, tout simplement. En ce qui nous concerne, c'est un avertissement, je pense. Faire la volonté du Père à un prix, en termes de persécution, dans ces différents chapitres, hein, 7, 8, 9, ou même, on peut voir dans 11 ou même tout l'évangile, à chaque fois que Jésus guérit un malade, et au passage affirme qu'il est vraiment, au passage annonce l'évangile, au passage annonce ce qui est à venir, à chaque fois qu'il fait ça, on peut remarquer que la persécution augmente, on peut remarquer que les pharisiens à chaque fois montent d'un ton, et à chaque fois en fait, il ne fait que rapprocher son destin d'aller vers la croix. On peut prendre Jean 8, 58, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Instantanément, là-dessus, ils prirent de pierre pour le jeter contre lui. Jean 9, 22, ses parents dirent cela, donc ils ne voulaient pas répondre directement qui était Jésus. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme Messie. Donc on peut voir qu'il y a plein de passages encore. À chaque fois que Jésus annonce qu'il est, à chaque fois qu'il fait un miracle, à chaque fois qu'il dit ce miracle je le fais parce que je viens de Dieu, il y a la persécution qui s'intensifie. Jean 9, verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme, Jésus, est un pécheur. » Jean 11, 43, donc là, Jean 11, il y a vraiment tout un déroulement. Jean 11, 43, après avoir dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Lazare qui ressuscite. Encore une fois, par conséquence, Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Verset 53. Dès ce jour, il tint conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Voilà le prix que coûte à Jésus de faire des guérisons. Voilà le prix que coûte à Jésus de témoigner du Père. Et voilà le prix qui nous coûte d'aller effectivement publiquement témoigner dans la rue, dire qui est réellement Jésus et annoncer sa parole. Troisième partie. Donc, on a vu que cet aveugle avait une maladie physique et une maladie spirituelle, propre à tous les hommes. On a vu que témoigner avait un prix, et que cette guérison, ce n'était pas juste pour le guérir physiquement, ce n'était pas juste pour le guérir spirituellement, mais qu'il y avait vraiment une portée de témoignage, de créer qui était Jésus. Et enfin, troisième partie, on va parler du fait que Jésus est un docteur qui compte ses œuvres. Donc versets 4 et 5, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus estime son temps sur terre. Ça peut être surprenant, on pourrait penser que comme il était avant au ciel, comme il va après au ciel, comme il était Dieu, et qu'il a été un moment sur terre dépourvu partiellement de sa divinité, et qu'il est à nouveau maintenant au ciel, on pourrait se penser que c'est pas vraiment un problème quand on est sur terre de se presser si on est Jésus, après tout. S'il n'a pas réussi à accomplir ce qui n'était pas complètement réglé, on peut se dire que une fois qu'il est au ciel, il a pouvoir sur tout et puis il peut régler toutes les choses à distance. On pourrait se dire qu'il n'y a pas une urgence à ce que quand il est sur terre, il soit vraiment pressé, empressé à agir et à intervenir comme si chaque seconde, chaque jour en dépendait. On sait que lui-même savait sans doute qu'à un moment ou à un autre, il allait être au ciel et il allait pouvoir continuer à régler toutes choses et à régner sur toutes choses. Et pourtant, il gère son temps, il gère ses jours, comme si lui-même devait rattraper ses jours, comme si lui-même il avait des jours mauvais, comme c'est marqué ailleurs dans la parole, à rattraper. Au sens terme du large, oui, effectivement, à partir du moment où il monte au ciel, il peut continuer à agir, à travailler, à intervenir dans toute la terre, puisque c'est Dieu, effectivement. Jésus a mis une vie parfaite, il nous laisse un exemple parfait, et parce qu'il nous laisse un exemple parfait, ça implique que sa vie a un sens, et ça implique qu'il ne laisse aucun jour, aucune heure, aucune chose laissée au hasard. Il a vraiment ce souci que chaque heure, chaque jour compte dans ce qu'il fait, dans son ministère. On peut lire Jean 4, verset 34, Jésus qui annonce la parole. Jésus leur dit, la nourriture est donc de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cet aveugle est une occasion, avant tout pour Jésus, de servir le Père. C'est comme ça qu'il voit les choses. Tant qu'il fait jour, tant que je suis en vie sur terre, il faut que je fasse l'œuvre du Père. C'est comme ça que j'ai réfléchi. On pourrait prendre un exemple, la manière dont on pourrait vivre la vie, sachant qu'il y a une entité supérieure qui contrôle toutes choses déjà. Les pilotes d'avion, par exemple, suite aux nombreux accidents qu'il y a, on leur conseille, même s'ils ont le pilote automatique activé, on leur conseille de garder les mains sur les commandes de l'avion. Parce qu'il n'y a eu qu'un accident, où dès que l'avion commençait à avoir des turbulences, etc., la personne a appuyé sur enlever l'autopilote, mais bon, utilisait son ordinateur, des soupes, etc. Et au moment où elle enlève le copilote, les contrôles partent dans tous les sens et l'avion s'écrase. Il y a même certaines personnes, alors même qu'elles voyaient l'avion partir dans les turbulences et qu'il y avait des problèmes, elles continuaient à essayer de régler le problème en appuyant sur l'autopilote, en appuyant sur l'ordinateur, en essayant de rentrer les données, au lieu de prendre l'avion à main et de piloter concrètement. On pourrait voir ça un peu comme la manière dont on vit notre vie. Est-ce qu'on... Effectivement, il y a des choses que Dieu gère tout de A à Z. On ne peut pas tout gérer dans notre vie. On n'est pas un ordinateur. On pourrait être sacrément intelligent et penser à quasiment tout ce qui est possible et imaginable qui puisse arriver dans une journée, pouvoir tout prévoir, faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème. Ça, faut le laisser à Dieu. C'est des moments où, effectivement, il faut laisser le pilote automatique. Mais il y a effectivement des moments dans notre vie où on voit que l'avion part en dérive, et au lieu de se dire, j'utilise la souveraineté de Dieu comme une excuse, et je laisse l'avion diriger jusqu'à l'accident, c'est peut-être le moment où il faut effectivement reprendre l'avion en main. C'est pas parce que Dieu est souverain et maîtrise toutes choses qu'effectivement on peut laisser les choses aller. Et si même le Fils de Dieu, si même Jésus lui-même qui avait une confiance absolue en son Père, savait que son Père était capable de toutes choses, même Jésus qui avait confiance à ce point-là, il n'était pas non plus en train de vivre, c'est ses pas non plus vivre, il n'était pas en train de dire « c'est bon, j'ai plus rien à faire » ou « j'en fais le minimum » ou alors « j'ai une attitude qui montre que je ne suis pas empressant envers la mission qu'on m'a donnée parce que je sais que de toute façon mon Père il va tout faire ». C'est pas du tout comme ça que Jésus a abordé la mission qu'on lui avait donnée. On peut lire Jean 5, verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Jean 11, 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Jean 12, 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Évidemment, il y a une allusion au fait que Jésus ne sera pas toujours là sur terre pour ses disciples et que c'est une occasion d'en apprendre le plus possible sur qui est Dieu. Mais il y a aussi effectivement cette dimension de ce que notre vie sur terre est limitée et que comme même Dieu serait au contrôle de toutes choses, c'est à nous d'avoir l'initiative, d'être motivés, de prendre les choses au sérieux quand Dieu nous donne cette mission d'annoncer sa parole. Conclusion. L'aveugle était doublement malade. Aveugle physiquement parce qu'il ne voyait pas. Aveugle spirituellement. C'est comme tout homme, il ne pouvait pas voir, peut-être à un moment donné, ou jusqu'à un certain moment, il ne pouvait pas voir qu'il n'était pas en règle, qu'il était fâché contre Dieu, qu'il était non pas en règle contre Dieu, mais qu'il était un ennemi de Dieu. C'est là la maladie la plus importante à soigner. Nous, malheureusement, en tant qu'homme, on voit les choses physiques, on voit les choses visuelles, alors ça aide, hein, on peut pas négliger ça. Mais on peut voir que les blessures visuelles, on peut voir que les limitations physiques d'une personne, mais on ne voit pas le cœur de l'homme, on ne voit pas l'urgence qui est de soigner d'abord le cœur de cette personne. Et c'est ce que Dieu veut en priorité avant toute chose. Quand bien même certaines limitations physiques resteraient dans le cœur de certains, le plus important pour Dieu, c'est ce qu'il désire le plus régler, cette maladie du péché. On a vu que cette guérison n'était pas uniquement utilisée pour le guérir physiquement. On a vu qu'elle n'était pas utilisée uniquement pour effectivement le guérir de son péché, pour le sauver, cet aveugle. Et on a vu que dans ce passage-là précis, dans tous ces différents passages, Dieu utilise ses guérisons pour montrer que Jésus est réellement son Fils, que Jésus vient réellement de Dieu. Et tout simplement une démonstration de témoignage public. Dieu utilise ses guérisons pour témoigner publiquement, témoigner à son peuple, témoigner à tout le monde qui est Jésus et tout simplement de ce royaume qui est à venir. Utilisation de témoignage, et ça peut être valable aussi pour nous, on n'a peut-être pas les capacités de rendre les aveugles capables de voir, hein, mais on est capable de témoigner, on est capable de prier. On voit qu'il y a des personnes qui se tournent vers Jésus, qui se convertissent, ce sont autant d'occasions de témoigner publiquement que ce qu'on a pu lire. Et enfin, Jésus, un docteur, une personne qui est un ouvrier, qui compte ses heures. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui était depuis toujours, qui règne et qui règne maintenant, a toujours à estimer son temps sur terre. Il a vécu comme si lui-même avait de mauvais jours à rattraper. Il n'a pas fait son nom, il a vraiment vécu comme un homme, il a vraiment estimé chaque heure et chaque jour de sa journée comme importance pour servir son Père. Amen.